L'escapade en 1602, un texte adapté du roman du même nom de Armand Lombard aux éditions Pourquoi pas. Avec Gilbert Combépine, Yola Thil, Raoul Yersin, Pierre Bassoli, Gisèle Zanon, André Devenier, Michel Simkovitch, mise en onde Dominique Bertschi, travail en régie et montage Pierre Vaucher.
Cette histoire de l'escalade, je l'ai écrite pour tenter d'élargir le cadre très étriqué de la mythologie genevoise et pour insuffler de la vie à cette ville de 1602, engoncée dans un récit trop figé. On vivait, on aimait, on riait, que diable, du temps de l'escalade. Les tensions étaient fortes, on réagissait fortement. L'avenir n'était ni évident ni garanti, on le supputait. Les catholiques, leur reconquête du pays et leur évêque aux aguets, on les détestait. Le duc, sa dureté militaire et son rêve burgonde d'un état du milieu, on les rejetait. La famine guettait, le blocus de la ville se resserrait d'année en année, les alertes étaient fréquentes et des morts dans chaque famille rappelaient qu'elle pouvait être chaude. Il y avait des estropiés dans les rues, des blessés de guerre. On croisait sur le bourg de Four des héros.
Le rêve de Pierre Barillon n'était certainement pas de devenir un grand soldat. C'est l'histoire qui en a fait un héros de cette nuit terrible de décembre. Pierre était apprenti et garçon de course chez Autolet, le boulanger du bourg de Four. Et dans le secret de son cœur, il aspirait à devenir un jour un grand confiseur. Son oncle rabrouait.
« Tu n'es qu'un rêveur et surtout un incorrigible gourmand. » Comment donc penser à des douceurs en ces jours dramatiques et amers ?
En fait, dans cette Genève de 1600, on était avant tout protestant, on pratiquait Dieu, l'Église et ses sévères ministres. On se méfiait des Savoyards comme de Satan, et on s'entraînait avec vigueur aux exercices militaires.
Mais Pierre, humant les parfums de chocolat ou de sauce vanillée dans la boutique du patron, se persuadait que pâte de fruits, savarin et sorbet aux arômes purs auraient, en des jours meilleurs, un succès sans limite. En dehors de ces petits gâteaux, Pierre Barillon, les lundis et mercredis après-midi, devait se rendre à l'exercice du canon. Tous les habitants de Genève qui n'étaient pas trop mal bâtis étaient tenus en effet de suivre l'entraînement de l'une des sociétés de tir.
Genève traversait une période bousculée et tendue. Catholiques et protestants s'affrontaient sans répit et cruellement. Le duché de Savoie, après avoir virtuellement disparu des cartes de géographie en 1536, était ressuscité 30 ans plus tard et devenu une puissance importante à cheval sur les Alpes, prête à avaler Genève pour en faire sa capitale du Nord. Les Bernois, prudents devant cet adversaire fougueux, lui avait, au grand désespoir des Genevois, leurs alliés, cédé le Chablais avec Thonon, Lévoiron, Nernier et même Hermance, ainsi que le pays de Gex. Ils avaient gardé le pays de Vaud et promis réconfort et vagues aides à leurs alliés du bout du lac, fort inquiets de cette solitude. Entourés par la Savoie, dès 1589, ceux-ci n'avaient eu d'autre tactique contre son duc agressif que de le harceler sans cesse pour permettre à la ville de vivre, de respirer et de se nourrir.
Pierre se rendait donc sur la treille le lundi et le mercredi à 1h30. Il y retrouvait Jossaume. Jossaume était le neveu des demoiselles Jossaume, qui tenait la boutique de papier, parchemin, bougies et autres, en dessous de la boulangerie du bourg de Four. Il y avait une sérieuse animosité entre les deux garçons, qui datait des leçons de religion de Saint-Antoine. Jossaume était teigneux et myope d'esprit. Pierre était bien sûr beaucoup mieux, puisqu'il est notre héros. Malheureusement pour lui, Jossôme était le chef aux militaires.
Il est une heure passée, Barillon.
Désolé, je...
L'heure, c'est l'heure. Et après l'heure, c'est plus l'heure.
Pierre prit place sur le rang qui se formait à la suite des autres. À eux tous, ils représentaient le groupe Coulevrine du Bastion de Loire.
Si je vous dis d'aligner, alignez donc, parsambleu. Il y a un avant qui dépasse devant. Et un derrière. Derrière. Alignez.
Décidément, Pierre n'aimait pas Jossôme, mais il acceptait son militarisme tatillon par nécessité pour défendre Genève et sa religion.
Le seul bon moment de la milice, c'est lorsqu'après les brimades du chef, on va boire un verre avec les copains à l'écu de France. Il y a là une jeune fille catholique, mais si jolie quand même, qui nous sert. Elle s'appelle Anne Jacqueline. Je l'ai remarquée au premier regard et nous avons déjà échangé de petits mots et puis de longues œillades.
Tu roupilles ou quoi, Barillon ?
La Coulevrine d'exercice était sortie du hangar au bas de la treille. Ce n'était pas le moment de rêvasser. Les chevaux tiraient le petit canon jusque sur le bastion au coin de la place Neuve. Et on s'entraînait. Barillon, car c'était son rôle, prenait le projectile dans le coffre à boulets, l'essuyait soigneusement avec le chiffon à boulets et le transportait jusqu'au canon.
Ça vient le boulet ?
Il coince un peu, il coince, je peux pas l'entrer.
C'est pas vrai, mais dites-moi, c'est pas vrai, des cloches pareilles.
D'exercice en exercice, survint le jour néfaste où l'intimité des deux jeunes gens trouva à se concrétiser. Jossôme, pour la première fois, s'était rendu avec sa troupe à l'écu de France. Il n'aimait pas cette auberge tenue par des papistes et, qui plus est, par des savoyards. Elle ne pouvait être que mal entretenue et trop chère. Pourtant, ce jour-là, il avait fait une entorse à ses principes et immédiatement, la ravissante servante lui avait tapé dans l'œil. Avec jalousie, il avait constaté que Pierre et elle avaient cœur lié. Il s'était alors efforcé, pour gagner la jeune fille, de se rendre intéressant, de faire le mariole et de ternir son subordonné.
En tout cas, pour le tir, faut raconter sans Pierre. Quelle pomme ce mec !
Au casse-pipe, mon vieux, faudra voir, suffira pas d'être galonné.
Au casse-pipe, mes amis, il faudra aussi compter avec les Savoyards. Ne l'oubliez pas.
Depuis, Pierre se concentrait davantage à l'exercice. Ah, il était inutilisable ? Il allait lui faire avaler cette phrase à ce taborgnot. Ah, il y aurait des Savoyards ? Eh bien, il lui en montrerait à sa nouvelle amie de quel bois on se chauffait chez les calvinistes. Elle en serait si épatée qu'elle ne douterait plus du camp de Dieu. Alors elle se déciderait. Alors tout serait possible.
À l'automne de 1602, on intensifia l'entraînement. Les troupes ennemies, les Espagnols, les Italiens, se multipliaient dans la région. Les altercations éclataient, les incidents dégénéraient. La paix ne tenait plus qu'à un fil. Le fond de l'air était tendu et prêt à craquer.
De deux après-midi par semaine, la milice passa à trois demi-journées d'entraînement. Trois fois par semaine, Pierre, par conséquent, rencontra Anne Jacqueline avec enchantement. Jossôme se mit à nourrir de sombres sentiments. Il se mit à cancaner sur les deux amoureux, à colporter des histoires de son invention sur leur compte.
Cette petite mijaurée se moque des soldats de Genève. Attention, messieurs, elle est savoyarde. Si j'étais d'Albigny, qui d'autre placerais-je comme espionne dans la ville qu'une petite poupée aiguichante?
Il tissait ainsi autour de la jeune fille un imbroglio de mensonges pernicieux, sans épargner Pierre non plus, en parlant à tout venant de sa liaison avec une papiste rouée. Ces médisances étaient périlleuses pour les deux jeunes gens en une période si troublée, et l'avenir ne promettait rien de bon à leur idylle naissante.
Mais que se passait-il pendant ce temps de l'autre côté de la frontière? Jean sans fin habitait un minuscule petit village de la plaine de Larve, juste derrière le petit Salève. Son père y était menuisier charpentier et Jean, fort de ses 16 ans, était un apprenti habile de l'atelier de famille où travaillaient également ses deux frères aînés et son oncle. L'entreprise était florissante et surchargée de travail, car la réputation des sans-fin s'étendait fort loin à la ronde.
Depuis quelque temps, on exécutait d'arrache-pied une commande spéciale et mystérieuse. Il s'agissait d'échelles d'assaut faites de 6 sections de 5 échelons, qui s'emboîtaient les unes dans les autres. Une invention du père de Jean, qui en était très fier. La consigne était de ne piper mot à qui que ce soit de ce travail. Même Jean était tenu à l'écart du projet.
De jour en jour, pour lui, le mystère s'épaississait. Début novembre, des soldats déguisés en paysans avaient pris livraison des deux jeux complets d'échelles qu'ils avaient soigneusement camouflés avec leurs armes sous un charroi de foin. Puis, un vendredi, Jean se souvenait de la date parce que c'était un vendredi 13, le 13 novembre 1602. Il devina à toutes sortes de signes que quelque chose de hautement inhabituel allait se produire à l'atelier. La dernière main avait été mise à un nouveau jeu d'échelles. On les avait peintes en noir. Il y avait de l'anxiété dans l'air.
Jean n'eut cependant guère le loisir d'observer la suite des événements. Il était attendu ailleurs. Une réunion des anciens, des leçons de relipette de Monsieur de Sales, avait été organisée à Régnier. Et il avait été convié à passer la nuit là-bas, chez César Lutigny. Car on ne pouvait, après le coucher de soleil, emprunter les routes en ces temps d'occupation et de guerre. Cependant, tous les jeunes gens, au nombre d'une douzaine, étaient arrivés. Parmi eux se trouvait Anne Jacqueline, la jolie serveuse de l'écu de France, amie de Pierre le Calviniste. Leur hôte, César Lutigny, demanda le silence.
Monsieur de Sales vient d'être rappelé de Paris et nommé évêque de Genève. Nous avons donc pensé qu'il nous fallait, nous, ses anciens élèves, célébrer glorieusement son retour au pays. Sans lui, ne serions-nous pas des hérétiques voués aux flammes des enfers, ennemis de sa sainteté et de la Vierge Marie?
On pourrait lui écrire une lettre de bienvenue.
Et la jeune fille pensait...
Comme il est bien, ce Jean! Comme il est devenu robuste depuis qu'on s'est vu la dernière fois à la religion.
Les propositions les plus agressives fusaient maintenant. César Lutigny voyait son idée fleurir et s'épanouir.
Ah, si seulement on pouvait l'installer à Genève, notre grand François de Sales!
Jean ne disait rien. Dans sa tête, une idée folle s'était glissée.
Reprendre Genève pour l'honneur de Monsieur de Sales, c'est une chose. Mais la reprendre pour libérer Anne Jacqueline, quel rêve magnifique! C'est un ange, cette fille. Un ange chu dans la cité des hérétiques. Un ange à extirper hors de la ville aux mille perditions.
Le lendemain matin, Jean reprit le chemin de son village. Il franchit le portail de la menuiserie. Fredo l'attendait. Père, oncle et frère étaient partis en fin d'après-midi avec l'échelle noire et n'étaient revenus qu'au petit matin, crottés et très fatigués. Sûrement, ils avaient fait ce qu'on pensait. Ah, ça allait chauffer du côté de Genève.
L'atelier sans fin s'était transporté au pied des murailles de Genève avec la fameuse échelle. Les Savoyards prenaient là un grand risque. Mais il fallait absolument tester le matériel sur place. On se faisait aussi peu remarquer que possible. En début de soirée, en dessous de vessie, avant de s'enduire le visage et les mains de graisse noire, on avait croqué quelques tartines. Puis on avait attendu. La nuit tombée, on avait gagné plein palais. Et, se faufilant le long des murs de l'hôpital des Pestiférés, les fortifications de la Coratrie. Les soldats savoyards s'étaient postés en sentinelle. On y voyait goutte. Le fossé était plein d'eau. Il pleuvinait. À tâtons, de l'eau jusqu'aux genoux, on avait amené Fascine et Clay solidement liés au pied de la muraille. On avait alors commencé à dresser l'échelle. En grimpant, le père avait noté quelques défauts. Ensuite, sans problème particulier, la troupe avait ramassé ses clics et ses claques et, fourbu, avait regagné Trembière.
Le soir du 11 décembre, dans la cité de Calvin, Pierre Barillon, ayant achevé ses livraisons, était rentré chez lui dans la Grand-Rue. Au lieu de se coucher, il avait entamé le cadeau de Noël qu'il destinait à son oncle, le tailleur de voile. Il lui préparait une petite barque du Léman qu'il découpait dans un morceau de sapin. Il était tard déjà, mais il voulait avancer.
Un coup de feu, ma parole, avait claqué quelque part, côté muraille. Des voix maintenant, des appels. Il écouta, ouvrit la fenêtre. La rue était noire, des volets, par-ci, par-là, s'ouvraient. Encore un coup de feu, des cris, des pas précipités.
À la garde, à la garde!
Les Savoyards, mince, ça devait arriver! En route!
Pierre sortit en trombe. L'immeuble se réveillait.
Alarme! Les Savoyards, alarme!
Il prit la Grand-Rue au pas de course, en direction de l'hôtel de ville. Coup de feu du côté de la Monnaie, cris! Des gens couraient vers leur lieu de rassemblement. Il voulut passer la porte de la Treille. On le retint.
Ils sont en train de monter la rampe, on n'y va pas!
Une trentaine d'hommes furent bientôt là, en chemise, en manteau, portant n'importe quoi, mais tous bien armés d'une épée, d'une arquebuse ou d'un pistolet. L'un d'eux, juché sur un mur, chuchota que les Savoyards étaient à 30 mètres maintenant et avançaient en silence, ignorant notre présence.
Allons-y, les enfants, sus aux Savoyards!
Les mousquets firent feu et aussitôt, en hurlant, on se rua sur l'ennemi. Surpris, les Savoyards reculèrent, mais on avait affaire à des soldats décidés qui se regroupèrent à mi-pente pour faire face. On se battait sur l'esplanade de la Coratrie. On se battait aussi dans la Tertasse, dans la Treille et dans les couloirs de la cité. Pierre, Verju et Cazalet firent glisser la lourde porte du hangar. Personne. Aucun des servants n'avait encore réussi à traverser la cohue. La pièce de réserve était à sa place, intacte, mais pas utile à ce stade. Il fallait maintenant gagner le bastion et la chambre d'artillerie où se trouvait, déjà pointée sur la muraille, la pièce numéro 1.
L'affaire n'allait pas être facile. Le hangar était un peu en retrait, mais à 20 mètres, en direction de la muraille, on devinait dans la nuit des flux et des reflux de Savoyards.
Ah les gars, je ne sais pas comment j'ai pu passer. J'ai dû me faufiler le long des remparts, carrément au milieu des Savoyards. Il y a trois échelles à la Coratrie et ça déverse du Savoyard sans arrêt.
Il faut aller les canonner. Nous ne pouvons pas attendre les autres. Prenons ces bandits par surprise. Un grand élan et on fonce avec le Montelet jusqu'au bastion. Ensuite, on avisera. Les copains finiront bien par arriver.
Au pas de course, l'équipe s'élança. Elle franchit l'esplanade avec la pièce, puis bouscula un flot d'ennemis au visage noir et arriva sur le bastion. Les Savoyards s'étaient déjà ressaisis et ils se mettaient à tirer.
Occupez-vous des Savoyards. Moi, je tire sur les échelles. Je les vois clairement là, à 300 pieds.
La lutte était inégale. Ils étaient au moins 20. Les trois jeunes gens firent des prodiges et donnèrent l'impression d'être aussi nombreux que leurs ennemis. Mais ils n'eurent rapidement plus de munitions. « Un éclair énorme déchira la nuit. Barillon se boucha les oreilles, mais ne trembla pas. Une fantastique déflagration retentit. Sur le bastion, Savoyard et Genevois sursautèrent, éblouis. Une clameur retentit du côté de Plainpalais. Une autre clameur d'horreur et de désespoir retentit dans le fossé.
Hurrah ! Hurrah !
Des hurrahs et des bravos éclatèrent sur l'esplanade.
Pierre Barillon, le mauvais cantonnier, avait tiré, tout seul, sans se soucier des assaillants. Et il avait fait mouche. Une échelle avait été fauchée qui, en tombant, en avait entraîné une autre. Les Savoyards ne pouvaient plus monter.
Tire, Barillon, continue à tirer. Nous, on s'occupe de cette bande de foirés.
Barillon déjà rechargeait. Mais Verju fut touché et il tomba en gémissant, se tenant l'épaule. Les Savoyards étaient quasiment sur la pièce. Barillon se saisit d'une grande barre de fer et se mit à faire des moulinets impressionnants devant l'entrée de la cambuse. Grâce à ce renfort, ceux du bastion purent se dégager et reprendre la situation en main. Barillon, pan et pan, à deux reprises, tira au pied de la muraille.
Pagaille là en bas. Des torches jetées par les nôtres éclairaient le fossé. Des Savoyards se traînaient, blessés, ou s'enfuyaient en pataugeant dans la boue. La glorieuse attaque des troupes de Savoie se mua en quelques instants en un désastre sans nom.
Pour le bastion, c'était gagné. Pour Genève aussi. De toutes parts, dans cette obscurité traversée des feux de 1000 torches, on pouvait constater, après 2 heures de bataille, la défaite des catholiques. À la porte de Neuve, ils se battaient encore, mais, cernés par des Genevois décidés, ils ne tiendraient pas longtemps.
Sur le reste de l'esplanade, les combats avaient cessé. Genève était sauvée!
Jean Sansfin, notre jeune Savoyard, avait eu de la chance, oui, on pouvait l'affirmer. 10 fois, il avait risqué d'être arrêté, écrasé, arquebusé. En vue de l'hôtel, et moi, il avait manqué de recevoir un cacheton sur la tête alors qu'il passait sous une fenêtre d'où une matrone, on dit que c'était Madame Royaume, jetait toute sa batterie de cuisine sur les assaillants. Grâce au tumulte général, à l'euphorie des vainqueurs et à son agilité, il avait atteint l'auberge de l'écu de France.
Anne-Jacqueline avait poussé un cri en le voyant.
« Oh Jean, pauvre Jean, vite, entre, viens par là !»
Ils avaient dévalé les marches. Elle le tenait par la main dans l'obscurité. C'était une petite main de réconfort. C'était des doigts délicats dont la douceur coulait dans son corps meurtri. C'était la vie et la chaleur au fond de cette nuit de froidure, de mort et d'échec. Au bas des marches, un recoin sombre où ils s'arrêtèrent. Un petit baiser sur la joue, un nectar qui lui envahit l'âme. Ils étaient arrivés. Les jambes de Jean l'abandonnèrent. Il tomba sur un mauvais grabat, épuisé, profondément choqué du désastre de la nuit. Anne-Jacqueline déjà remontait en surface pour ne pas donner l'éveil.
L'histoire de l'escalade, selon Armand Lombard, ne s'arrête pas là, à la victoire de Genève sur les Savoyards. L'escapade d'Armand Lombard se termine sur une histoire d'amour un peu compliquée autour de la jolie Anne-Jacqueline, tiraillé entre notre héros Pierre Barillon et Jean le jeune Savoyard. Un petit drame, ou un grand, allez savoir, qui prolonge l'aventure à sa manière. Mais certaines histoires ne sont pas bonnes à dire. Il faut les lire.